Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'Italie n'accepte de leçons de personne sur les migrants. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, répond sèchement à l'ONU qui accuse son gouvernement populiste d'ériger des murs contre les réfugiés. Olivier Tosseri nous appelle de Rome dans un instant. En Suède, la poussée populiste aux législatives est contenue. 17,6% pour les démocrates suédois classés à l'extrême droite. Mais leurs idées influencent déjà la vie politique suédoise. C'est ce que nous expliquera notre envoyé spécial à Stockholm, Élise Delay. En France, Richard Ferrand, bien parti pour succéder à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale. Le député du Finistère a facilement distancé l'écologiste Barbara Pompili dans le vote interne à La République En Marche, le reportage d'Alexandra Dubucheron. Invité de ce journal, l'agroéconomiste Gérard Youx. Nous évoquerons avec lui l'ouverture du Spas de Rennes, le grand rendez-vous de l'élevage français. Le torchon brûle ce soir entre l'ONU et l'Italie. Michelle Bachelet, la nouvelle haut-commissaire aux droits de l'homme, a critiqué aujourd'hui la politique anti-migrant du gouvernement populiste italien. Elle a aussi annoncé l'envoi en Italie d'une équipe onusienne chargée d'évaluer, je cite, « la forte augmentation des actes de violence et de racisme contre les migrants et les Roms en Italie ». De quoi faire bondir le chef populiste Matteo Salvini. L'Italie balaye les leçons de morale de l'ONU. A répliqué en substance le ministre italien de l'Intérieur. Olivier Tosseri nous appelle de Rome.
L'Italie n'accepte de leçons de personne sur les migrants, a sèchement réagi le ministre de l'Intérieur. Ces dernières années, l'Italie a accueilli 700 000 immigrés, dont beaucoup de clandestins, et n'a jamais reçu d'aide des autres pays européens, a-t-il poursuivi. C'est justement la politique d'accueil de l'Italie ces derniers mois qui est dénoncée par Michelle Bachelet. Elle critique les décisions prises par Matteo Salvini de fermer les ports aux navires ayant secouru des personnes en Méditerranée et de supprimer les programmes d'intégration. Une politique qui génère, selon elle, délibérément de la peur et de la colère chez les migrants, les prive de leurs droits fondamentaux et procure plus d'hostilité, de misère, de souffrance et de chaos. Elle cite ainsi la forte augmentation signalée des actes de violence et de racisme contre les migrants, les personnes d'origine africaine et les Roms en Italie. Pour Matteo Salvini, son pays n'est pas raciste et il donne un conseil à Michelle Bachelet avant de s'occuper de l'Italie, que l'ONU enquête sur ses États membres qui ignorent les droits élémentaires comme la liberté et la parité entre hommes et femmes. Matteo Salvini qui évoque également la possibilité de réduire la contribution de l'Italie au budget de l'ONU.
Olivier Tosseri, correspondant en Italie. La crise migratoire qui est peut-être à l'origine d'un nouveau drame en Méditerranée. Selon Médecins sans frontières, une centaine de migrants seraient morts noyés début septembre au large de la Libye. MSF évoque le naufrage de deux canots pneumatiques. L'ONG s'appuie sur le témoignage de plusieurs rescapés de ces naufrages. Venons-en maintenant aux élections législatives en Suède. Un scrutin marqué hier par une nouvelle poussée populiste. Les démocrates suédois ont recueilli 17,6% des voix, 5 points de plus qu'en 2014. Mais le parti anti-migrant a échoué à franchir la barre des 20% comme il l'espérait. Il termine troisième derrière les sociaux-démocrates et les conservateurs modérés. En fait, derrière ce résultat en demi-teinte se cache une autre réalité. L'extrême droite est devenue incontournable dans le paysage politique suédois. On retrouve à Stockholm notre envoyé spécial Élise Delève.
Nous aurons une grande influence dans les semaines, les mois et les années à venir. Dès l'annonce des résultats hier soir, Jimmie Åkesson, le leader des démocrates de Suède, s'inscrit dans la durée. Et plusieurs chiffres lui donnent raison. À chaque élection, le score du SD ne fait qu'augmenter. En 8 ans, il a tripler ses voix. Entre 2014 et aujourd'hui, un Suédois sur 10 a changé de parti, notamment des conservateurs vers les démocrates de Suède. Enfin, 86% des électeurs qui ont choisi SD aux précédentes législatives ont à nouveau voté pour lui hier. Le parti séduit, s'enracine et ne connaît pas l'érosion. Le thème de l'immigration au cœur de ces élections devrait continuer à occuper le débat public. La Suède a un problème d'intégration, concèdent les spécialistes. Elle n'arrive pas à assimiler les populations arrivées récemment du Moyen-Orient et d'Afrique. Les vieux partis sont responsables de cette ségrégation, a répété Åkesson pendant la campagne. On veut à présent prendre nos responsabilités et on a un plan pour ça.
Élise Delève, depuis Stockholm, le bloc de gauche emmené par les sociaux-démocrates a obtenu 40,6% des voix contre 40,3% au bloc de la droite et du centre. De longues tractations s'annoncent pour former un nouveau gouvernement en Suède. Pour l'instant, le Premier ministre sortant, le social-démocrate Stefan Löfven, refuse de démissionner. En France, une fois de plus, les autorités évoquent l'acte d'un déséquilibré. Un individu au volant d'une voiture volée a réussi aujourd'hui à pénétrer sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il a finalement été neutralisé par les forces de l'ordre. Une personne a été légèrement blessée dans cette intrusion qui a provoqué l'interruption du trafic aérien pendant 4 heures. Le récit de Christophe Vincent.
Au départ, le vol d'une Mercedes dans une station Leclerc à Dijon. La voiture est repérée à contresens sur l'A43 près de Lyon. Prise en chasse, elle force une barrière au petit aéroport de Bron et repart. Même scénario à Lyon-Saint-Exupéry. Cette fois, la Mercedes traverse deux baies vitrées, fonce sur un champ avant d'être stoppée sur une piste. Stupeur d'Éric et Roland, deux passagers présents.
Juste un bruit et quand avec d'autres personnes on a essayé de descendre. Les agents de sécurité nous ont repoussés. Je ne se doutais pas que ça aurait été aussi grave. Quand je me suis approché de cet endroit, je ne me doutais pas que de ce passage-là, on pouvait franchir les pistes d'atterrissage. Et ça craint quand même, là. S'il y avait un avion qui atterrissait ou bien un autre qui décollait, on a certainement évité le pire. Il serait intéressant que les services de sécurité renforcent davantage parce que juste deux vitres et on est sur la piste d'atterrissage, ça craint quand même.
Ça m'a surpris, vraiment surpris, parce qu'on se croit tranquille, on n'est pas à Paris. Comme quoi, tout arrive n'importe où.
L'homme n'est pas fiché et n'a aucun antécédent judiciaire. Son entourage parle de fragilité psychologique. Au policier, il a dit « Je suis l'envoyé d'Allah », explique le procureur de Lyon qui écarte la piste terroriste à ce stade de l'enquête.
Christophe Vincent, à Paris, les enquêteurs s'interrogent également sur la santé mentale de l'homme qui a blessé 7 personnes, dont 4 grièvement hier soir dans le 19e arrondissement de la capitale. Armé d'un couteau et d'une barre de fer, il a agressé des passants le long du canal de l'Ourcq. Avant d'être maîtrisé par des témoins, l'homme serait de nationalité afghane. À ce stade, la section antiterroriste du parquet de Paris n'a pas été saisie, mais elle suit de très près le dossier, affirme une source judiciaire. L'actualité politique est dominée ce soir par celui qui deviendra, sauf énorme surprise, le prochain président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand a remporté aujourd'hui le vote interne organisé au sein de La République En Marche, largement majoritaire au Palais Bourbon. L'actuel chef de file des députés LREM a facilement distancé sa principale rivale, l'écologiste macronienne Barbara Pompili. Alexandra Dubouchereau a suivi le scrutin au congrès de Tours de La République En Marche.
Le député du Finistère recueille un peu moins de 2/3 des suffrages exprimés, 187 voix sur 291. C'est donc une vraie revanche pour ce marcheur de la première heure, promis un brillant avenir en Macronie, mais rattrapé par l'affaire des mutuelles de Bretagne et contraint de quitter son fauteuil de ministre au bout de 4 petites semaines. Richard Ferrand, c'était le choix d'Emmanuel Macron, choix respecté donc, même si lui y voit d'abord un vote d'adhésion.
La campagne interne s'est déroulée dans un climat fraternel, dans la clarté, dans la transparence. J'ai remercié mes collègues de ce vote qui atteint 65%, vote de confiance, vote au fond d'adhésion aux propositions que j'ai pu faire.
En face de Richard Ferrand, Barbara Pompili était la seule vraiment de taille. Elle obtient 29% des suffrages exprimés, un résultat plus qu'honorable qui lui donne des ailes.
J'ai reçu tellement de messages de soutien du terrain, des citoyens, aussi des marcheurs et puis de collègues députés que bien évidemment je vais continuer cet énorme combat pour la transformation. Et puis dans le contexte, je trouve que j'ai fait un très beau score et j'en suis très fière.
À la question « Vous rangez-vous derrière Richard Ferrand ?», réponse laconique de celle qui semble désormais décidée à continuer son combat de l'intérieur avec ses 85 soutiens. Quant aux deux autres candidats, il ne recueille que 15 et 4 voix. La question maintenant, c'est qui remplacera Richard Ferrand à la tête du groupe La République En Marche, poste difficile voire ingrat, et pourtant ils seraient nombreux à en vouloir. Laetitia Avia, la numéro 2 du parti, et Roland Lescure, député des Français de l'étranger, seraient les grands favoris, murmure-t-on ici.
Alexandra Dubouchereau à Tours avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Le vote officiel pour la présidence de l'Assemblée aura lieu mercredi. Richard Ferrand aura face à lui deux candidates de droite et de gauche, Annie Genevard pour les Républicains et Mathilde Panot pour les Insoumis. C'est la grand-messe de l'élevage français. Le 32e SPAS, le salon des productions animales, s'ouvre demain à Rennes. L'occasion de faire le point ce soir sur une filière quelque peu en difficulté entre la sécheresse et les critiques de plus en plus virulentes émanant des militants antispécistes. On en parle avec l'invité de ce journal, Gérard Youx, agroéconomiste à l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Bonsoir.
Bonsoir, oui.
Gérard Youx, quelle est aujourd'hui la situation économique des éleveurs français ?
Bien, écoutez, on peut dire que c'est une situation qui est globalement toujours assez préoccupante. Les revenus sont globalement toujours peu élevés en raison, dans le secteur laitier, d'une remontée du prix du lait relativement modérée, c'est-à-dire que en 2017 et 2018, le prix du lait n'a pas retrouvé les très bons niveaux qu'il avait connus deux années auparavant. Un contexte également en viande bovine où les cours sont moins volatiles. Donc les éleveurs sont confrontés à des charges, on va dire des charges opérationnelles toujours plutôt légèrement en hausse. Et pour certains, des charges de structure importantes, notamment dans le domaine de l'élevage, puisqu'il y a eu des investissements importants dans le passé. Et donc, ce qui veut dire des amortissements, des frais financiers, quoi.
Et on est sur une baisse globale du revenu des éleveurs français ?
Ça dépend. Enfin là, à court terme, sur 2018, la situation devrait être, on va dire, pour le secteur laitier, semblablement la même qu'en 2017. Le prix du lait remonte très très faiblement. L'alimentation du bétail a plutôt tendance à repartir un petit peu à la hausse, conséquence du renchérissement du prix du pétrole, et puis aujourd'hui des cours des grains plutôt plus haussiers. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une amélioration très spectaculaire, hein, une petite amélioration probablement, mais surtout une amélioration qui risque d'être quand même atténuée, plombée dans certaines régions par les effets de la sécheresse, c'est-à-dire que l'été a été effectivement très chaud, très sec, et on va dire ces incidents, on va dire cette phase climatique très très chaude et sèche a surtout affecté les régions de l'Est. À partir du mois de juin, donc ça s'est vu déjà en juillet, à l'ouest c'est plutôt normal, donc on peut avoir, si la sécheresse persiste, vraiment des déficits de fourrage dans toute, on va dire, la zone est, hein, qui va de, on va dire, de Lille jusqu'à, on va dire, ouais, jusqu'à Marseille, peut-être avec le Massif central. Et donc les régions de l'Est sont visiblement affectées de par l'évolution de la pousse de l'herbe et puis de maïs pas forcément de très bonne qualité, quoi.
Gérard Youx, la consommation de viande baisse régulièrement en France. Il y a aussi les éleveurs et les bouchers qui doivent faire face au mouvement antispéciste. Est-ce que ce climat inquiète la filière ?
Alors, côté de la viande bovine, c'est vrai que la consommation par habitant a tendance à baisser régulièrement. Mais en France, il y a quand même une démographie positive, ce qui atténue un petit peu cette tendance baissière. La question, c'est effectivement la montée en puissance des mouvements végans, d'un encouragement d'une consommation moins carnivore. Quel impact elle va avoir sur finalement la consommation à terme ? Donc c'est vrai que ça interroge, ça inquiète les maillons, notamment de la filière viande bovine, qui à la fois intègrent ces éléments, mais en même temps veulent promouvoir des viandes à partir de systèmes de production quand même relativement extensifs en France, à partir pour le troupeau allaitant d'une valorisation quand même essentiellement de l'herbe et des fourrages. Donc c'est pas forcément un drame dès lors que les circuits de distribution français privilégient la viande française. Ça peut être très très problématique dès lors qu'il y a des ouvertures un peu à tous les vents dans le cadre d'accords bilatéraux qui pèsent sur les prix, qui peuvent aussi avoir un effet sur l'image de la consommation, hein, de viande qui viennent de loin, qui peut-être ne sont pas perçues comme aussi favorables en termes de système de production et de mode d'alimentation qu'en France. Donc c'est plutôt tout ce contexte qui préoccupe la filière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un faisceau de convergence qui peuvent être un petit peu, on va dire, décourageant. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance assez morose, mais il y a des démarches, notamment par l'interprofession, pour promouvoir la viande française, les modes d'alimentation, les systèmes français, qui sont plutôt vertueux, globalement, et très éloignés des modes intensifs qu'on peut avoir outre-Atlantique, quoi.
Gérard You, économiste à l'Institut de l'élevage, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Aux États-Unis, l'ouragan Florence s'est nettement renforcé ce soir avec des vents de près de 200 km/h qui menacent la côte est des États-Unis. Le gouverneur de Caroline du Sud a ainsi ordonné à partir de demain à environ 1 million de personnes vivant sur le littoral de se réfugier à l'intérieur des terres. En France, la météo demain sera marquée par la poursuite d'un temps sec et chaud sur tout le pays. Les brumes et brouillards du matin se dissiperont rapidement, le soleil s'imposera partout, hormis une petite menace orageuse sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Température minimale de 9 à 22 degrés du nord à la Méditerranée, les maximales iront de 23 à 34 degrés de la Bretagne à la Provence. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.